CFM, le MAG, tous les jours, 17h, 17h30, la vie du Tarn-et-Garonne.
Salut, bonjour à tous, merci d'être avec nous, c'est le MAG. Aujourd'hui on vous propose une soirée concert de soutien à une maison pour des personnes en attente de statut. C'est une association gaillacoise, l'Entre-deux, qui vient jusqu'à Saint-Antonin-Nobleval nous proposer quatre groupes de la musique. Ce sera une soirée pour ce samedi. On parlera aussi dans ce MAG du festival Lettres d'automne. Ce soir, mardi, c'est l'inauguration de cette 29e édition. Et Rémi s'entretient avec Anne-Marie Gara. Elle est l'invitée d'honneur de ce festival Lettres d'automne. Mais pour l'heure, on est mardi. Et c'est la chronique des coups de cœur du réseau des médiathèques. Aujourd'hui avec Marion Cosson, qui est coordinatrice de ce réseau de médiathèques.
Bonjour à tous. Bienvenue dans la chronique des coups de cœur du réseau des médiathèques. Aujourd'hui, je vais vous présenter un roman. Tony Hogan m'a payé un ice cream soda avant de me piquer maman, et une bande dessinée intitulée « Ces jours qui disparaissent ». Commençons par « Tony Hogan m'a payé un ice cream soda avant de me piquer maman ». Ce roman a été écrit par Kerry Hudson en 2013. C'est l'histoire d'une mère dysfonctionnelle et de sa fille, Jenny, dans un milieu social ultra défavorisé. La mère de Jenny est instable et rencontre des hommes pas vraiment fréquentables pour la plupart, et violent concernant Tony Hogan. La petite Jenny est ballottée entre l'Écosse et Londres. Avec sa mère, elles vont de HLM en bed and breakfast. Leur quotidien est atypique et leur environnement est violent, mais on sent entre ces deux personnages un lien fort et l'amour qui les unit transparaît. C'est un roman autobiographique où l'humour de la narratrice aide à supporter la misère qui l'entoure. Pour ce qui est de la bande dessinée, je vous propose de découvrir « Ces jours qui disparaissent » de Timothée Le Boucher, paru en 2017. L'histoire de Lubin Marshall, qui se rend compte qu'il ne vit qu'un jour sur deux. Il découvre que durant son absence, un autre prend sa place en menant une vie totalement différente de la sienne. Lubin se met en tête de communiquer avec son autre par caméra interposée. Mais petit à petit, l'alter ego prend le dessus et possède le corps de Lubin de plus en plus longtemps, ce dernier s'évaporant progressivement dans le temps. Qui sait combien de jours il lui reste à vivre avant de disparaître totalement. Tout au long de l'histoire, le lecteur se demande si c'est bien Lubin qui disparaît ou bien s'il est atteint d'une maladie mentale du type schizophrénie. Ces jours qui disparaissent et Tony Hogan m'a offert un ice cream soda avant de me piquer maman sont à retrouver dans le réseau des médiathèques du QRGA. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.
Merci beaucoup Marion Cosson. Toutes les chroniques des coups de cœur du réseau des médiathèques sont bien sûr à retrouver en podcast cfmradio.fr. Comme toute l'entièreté de ce magazine d'actualité, on va le poursuivre, ce sera juste après la pub. Ce sera à propos du festival Lettres d'automne. Rémi s'entretient avec l'invité d'honneur de ce festival dont le coup d'envoi est ce soir à 18h30. L'invité d'honneur c'est Anne-Marie Gara. Mais avant ça, et donc juste après la pub, ce sera à propos d'un concert de soutien. Ce sera ce samedi à Saint-Antonin-Nobleval pour l'association L'Entre-deux, une association gaillacoise de soutien aux personnes en attente de statut.
CFM, le MAG, tous les jours, 17h, 17h30. La vie du Tarn-et-Garonne.
Et ce samedi, à la salle des Thermes de Saint-Antonin-Nobleval, on nous propose un concert de soutien, même pour une maison pour les personnes en attente de statut. C'est organisé par l'association L'Entre-deux, dont j'ai avec moi une membre, une bénévole, Marie. Bonjour.
Bonjour.
C'est une association qui est basée à Gaillac, je crois.
C'est ça. L'Entre-deux, c'est basé à Gaillac et c'est plusieurs familles d'accueil qui se sont associées pour acheter une maison pour héberger des personnes sans statut parce que nous n'avons plus de place chez nous.
Alors, dans un contexte où nous, en Tarn-et-Garonne, du moins à Parisot, on voit le CAO, le centre d'accueil et d'orientation, qui va fermer ses portes en décembre, oui. Vous avez donc choisi, vous, de faire une association, de vous débrouiller, quoi.
Voilà, on se débrouille, c'est ça. On a trouvé cette solution pour pouvoir continuer à héberger ces jeunes qui sont mis dehors par le département, sans aucune ressource.
L'entre-deux, ça s'écrit l'antre comme l'antre du démon, pardon, c'est l'expression qui me vient à l'esprit.
Et c'est un deux, double jeu de mots.
Ouais, l'entre-deux, deux comme l'entre-deux à eux. Vous avez mis en place un Hello Asso. On peut retrouver un petit peu ce que vous proposez en tapant association l'entre-deux. On y voit le programme de la soirée que vous organisez. Donc pour ce samedi, je le redis, c'est à la salle des Thermes avec un quadruple concert, de quoi boire, de quoi manger. Mais avant de parler de la soirée, pourquoi vous venez à Saint-Antonin? C'est super, hein, bienvenue. Mais quel est le...
Alors Saint-Antonin, parce que on espère avoir plein de monde, parce que c'est les Offices Maracas, parce qu'on a besoin de fonds. Et que c'est la seule salle qu'on nous a prêtée gratuitement qui pourrait accueillir 500 personnes.
Grâce à l'association, donc, même sans le train.
Grâce à l'association, même sans le train.
L'argent, vous en avez besoin pour refaire les locaux, pour faire des travaux, pour faire quoi? Pour meubler, pour...
Pour déjà manger, payer les factures, les cartes de bus. Ils sont tous les jeunes qu'on accueille sont tous scolarisés.
Ils sont combien, pardon? Vous avez combien de personnes?
On est dans la maison, ils sont 9 et dans les familles, ils sont une douzaine, voilà. On en a en tout, on en a 22.
Et donc pour vous aider à participer financièrement, il faut venir à Saint-Antonin samedi pour passer une bonne soirée. Le concert, vous nous le disiez, avec notamment les Offices Maracas, c'est au prix de 10 euros, mais 8 euros en prévente. On peut acheter les billets sur Hello Asso notamment, je crois. Pour parler de la programmation de cette soirée de samedi, vous avez avec vous Hugo, qui fait partie aussi de l'association L'Entre-deux, mais qui, lui, est plus branché programmation. Bonjour Hugo.
Oui, bonjour, oui. Alors du coup, en fait, pour le samedi, on va préparer une restauration sur place, donc ça commence à partir de 18h. On va avoir plusieurs concerts qui vont se dérouler dans la soirée jusqu'à minuit. Les Offices Maracas sont nos têtes d'affiche, ils démarrent à 22h. Voilà. Donc sur place, on a restauration, crêpes, on va faire des frites, il y a du mafé aussi, je pense, oui, c'est ça.
Ah, moi j'ai vu mafé, oui.
Ouais, par les jeunes, en fait, de l'entre-deux. Et on a aussi, pour végétariens, c'est... comment ? Frites falafel, ouais, c'est ça, voilà. Frites falafel.
Et, ouais. Et pour la musique, donc, outre Offices Maracas ?
Alors, outre Offices Maracas, il va avoir en fait Karma Sista. Donc, c'est un groupe qui est d'ici, du Tarn. Voilà. Après, on a Kazaridim et également Sisters of Seventeen.
Velvetine, moi je vois.
Velvetine, ouais, c'est ça.
c'est quoi comme ambiance là, le tout, tous les quatre, c'est très diversifié.
Les Sisters of Velvetine, c'est plus un peu sorcières. Elles sont trois, voilà, donc c'est un trio. Elles vont nous faire partir un peu, nous faire décoller un peu sur des ondes différentes, voilà. Après, Karma Sista, c'est funk, elle a la guitare, c'est folk, voilà, donc elle, c'est chansons à texte engagées qui sont un peu, on va dire, prenants. Voilà. Et après, le dernier, ouais, c'est reggae, électro, donc là, ça va envoyer un peu plus dans le son dub, quoi.
Il y en a pour tous les goûts, du coup, vraiment.
Oui, c'est ça, c'est très éclectique, hein.
Ouais. Et c'est donc à partir de 18h, c'est ce samedi, c'est à la salle des Thermes de Saint-Antonin.
C'est ça, ouais.
Au profit de votre association, donc l'association Gaillacoise L'Entre-deux, pour un concert de soutien pour une maison, pour les personnes en attente de statut. Un grand merci, tous les deux, Marie.
Exactement.
Et Hugo. Et puis à samedi, du coup.
Oui, oui, merci. Merci, puis on vous attend nombreux. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
La suite du MAG, c'est avec Anne-Marie Garat, l'invitée d'honneur du festival Lettres d'automne. Elle sera présente ce soir, mardi, au Théâtre ODG dès 18h30 pour l'inauguration de cette 29e édition. Pour l'heure, elle est au micro de Rémi Torella. Ce sera juste après Bongo Bongo Manu Chao. On n'entend pas assez sur cette antenne. Vous êtes sur CFM, à tout de suite. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city looking for a bigger crown. So I play my bongo.
boogie for the people of Big City, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the
king of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town, but I'm a king of bongo, baby. I'm the king of bongo bong.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo.
Hear me when I come. They say that I'm a clown, making too much dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the
king of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come. Banging on my bongo, all that swing belongs to me. I'm so happy there's nobody in my place instead of me. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. I'm the king of bongo, baby. I'm the king of bongo bong.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby. I'm the king of bongo bong. Hit me when I come. Hit me when I come, baby.
CFM, le MAG, tous les jours, 17h, 17h30, la vie du Tarn-et-Garonne.
Alors ça y est, c'est parti, le festival Lettres d'automne, c'est jusqu'au 1er décembre à Montauban et alentour, hein, parce que les lecteurs et les auteurs vont pouvoir se rencontrer, bien sûr à Montauban, beaucoup autour du Théâtre Olympe de Gouges, mais également à d'autres endroits, dans les écoles, dans les collèges, dans les médiathèques. Il y a plein de rencontres, 80 écrivains et artistes, des conférences, des expositions, du cinéma, des spectacles, des ateliers, des lectures en scène, énormément de choses autour d'un auteur invité et d'une auteure invitée. En l'occurrence, il s'agit d'Anne-Marie Gara. Bonjour Anne-Marie Gara.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous avez choisi pour ce festival Histoire, Images, Nuages. Vous êtes romancière. Votre dernier roman, c'est Le Grand Nord-Ouest, une histoire de road movie dans les années 30, d'une pin-up à bord d'une, enfin qui va à la rencontre des Amérindiens, tout ça. On va peut-être un peu en parler. Mais d'abord, et à chaque fois qu'on m'a parlé de vous, Anne-Marie Gara, tous ceux de Confluence, tous ceux de l'association qui organise le festival m'ont dit, tu vas voir, Anne-Marie Gara, c'est une passionnée de l'image. C'est une passionnée de cinéma, c'est une passionnée de photographie. Oui. Et on retrouve ça dans les histoires, images, nuages, oui. dans ce thème que vous avez choisi. Qu'est-ce qui vous a fait démarrer finalement dans cette passion pour l'image d'une façon générale?
C'est une question de génération. Vous savez, je suis née après-guerre, à l'époque où se multipliaient partout les ciné-clubs qui ont disparu aujourd'hui. Enfin, il en existe de manière résiduelle, mais disons que je suis tombée comme Obélix dans la potion magique, je suis tombée dans le cinéma, ouais. Comme ça, toute petite. Hein. Cinéma de quartier, les cinémas de patronage, il y en avait partout, dans les entreprises. Et donc, cette cinéphilie, ce qu'on a appelé plus tard la cinéphilie, je crois que c'est un fait générationnel que la. Et je pense que j'ai été autant formée par ma rencontre avec tout l'imaginaire du cinéma, toutes les fictions du cinéma, tout genre confondu, hein, du western au mélodrame, aux comédies musicales, au drame, enfin, etc., etc. Et donc, très jeune, que c'est une espèce de bain naturel, comme ça, Les jeunes d'aujourd'hui, peut-être, ont-ils moins cet accès, évidemment, avec les CD, les DVD, avec Netflix, oui. avec les... bon, etc. Mais la salle de cinéma garde une aura pour moi, et je pense qu'elle est irremplaçable, ce dispositif du cinéma dans la salle noire, collective, avec d'autres, avec des voisins, enfin, etc., ensemble, d'être au spectacle captif de manière hypnotique d'une séance de cinéma sur grand écran, je crois que c'est quelque chose d'irremplaçable et que ça a marqué mon imaginaire autant que mes lectures.
Et la photo ?
Et la photo, là, c'est une histoire un petit peu personnelle, autobiographique, mais je pense qu'elle rejoint celle de nombre de gens. C'est celle de l'appareil photographique familial que tout le monde a connu et qui a une histoire assez courte, assez récente. On n'imagine pas à quel point c'est récent que l'appareil privé, cette pratique populaire de la photo de famille, a marqué là aussi tout un siècle, enfin le 20e siècle, disons, avec les albums, avec les photos dans les cartons à chapeau, dans les boîtes à biscuits, enfin dans les vracs des tiroirs. Et dans l'album, évidemment. Et je pense que ça aussi, cette... Moi, je ne suis pas en manque de photos de famille. J'ai une famille, j'ai des photos de famille, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Mais j'ai aussi eu très très tôt, comme un peu Agnès Varda, la glaneuse, l'idée, pas collectionneuse, mais glaneuse, d'acheter ces photos d'anonymes tombées sur le trottoir, dans les vide-greniers, dans les brocantes, enfin, etc. De cette photo d'anonyme, c'est assez pathétique, enfin, tombée au trottoir, et dont j'ai fait un corpus qui m'accompagne et qui est ici, exposé aussi à Montauban.
On a fait quelques émissions... déjà sur Lettres d'automne, en préambule à ce festival ici. Et l'autre jour, j'avais un monsieur ici, prof de cinéma à la retraite, qui me disait, moi je suis très content de pouvoir rencontrer Anne-Marie Gara parce que j'ai enseigné le cinéma et l'image avec un livre coécrit par Anne-Marie Gara.
Ah oui.
Vous pouvez me parler de
ce livre ? J'ai pas l'idée de le citer, or j'en suis très fier de ce livre que j'ai écrit avec des amis, qui sont restés des amis depuis longtemps, et qui avec qui nous avons commencé à enseigner le cinéma dans les lycées grâce à Jacques Lang, qui a créé ces sections de cinéma, il y en a maintenant 120 en France à peu près, qui sont des dispositifs de transmission de la culture de l'image photographique et cinématographique, n'est-ce pas, qui était un pan aveugle de l'éducation nationale, que ça s'enseigne, que ça se transmet, une culture de l'image, n'est-ce pas, que c'est pas comme ça spontané, que les enfants vont vers les images. Et je pense même que c'est un acte citoyen, même politique, que l'éducation prenne en charge cette initiation à la culture de l'image. Et donc, en effet, on avait écrit ce livre, le Petite Fabrique de l'Image, qui s'appelait Petite Fabrique de l'Image. Donc,
c'était quoi l'idée ? C'était transmettre ?
C'était de transmettre, de mettre à la portée de essentiellement le public, ça a été les professeurs, mais aussi des étudiants, enfin, puisqu'ensuite il a été surtout utilisé en université ou dans les prépas, etc. D'une culture de l'image qui tient aussi à celle des représentations, de la peinture, de toute l'histoire picturale, et aussi bien de la carte de géographie, des représentations du territoire, de l'espace imaginaire ou réel, enfin, etc. Aussi bien de la marelle, et des glyphes aztèques ou je ne sais, enfin, de l'écriture, même des abécédaires, ce continent, cette nébuleuse de l'imagerie et de l'image, donc, et jusqu'à l'histoire de la photographie et donc du cinéma. Et même, on a ajouté un chapitre dans une édition ultérieure sur les images contemporaines, non pas pour faire un inventaire de la technologie, mais en quoi cela interroge le geste artistique, l'interprétation du monde par l'art. Et donc, y compris donc jusque les installations contemporaines, le croisement des arts entre vidéo, peinture, dessin, installation, enfin, etc., etc. Mmh. Voilà.
Alors, en radio, nous, on aime créer des images dans la tête des auditeurs. Oui. On est obligé, quoique maintenant, de plus en plus avec Internet, on va pouvoir leur mettre un peu de vidéo, mais on est quand même obligé de faire imaginer des images. Et c'est un peu pareil en écrivant un roman.
Mais la littérature ne fait que ça. C'est un art de la représentation, par la puissance du langage, de faire surgir dans l'esprit du lecteur des lieux, des personnages, des scènes, des lumières, des situations qui sont totalement virtuels, évidemment, qui ne peuvent être recomposés de manière mentale que par la puissance des mots, que par la puissance du langage. La littérature est éminemment un art de la représentation, au même titre que tout ce qui hante la littérature, les autres arts, la peinture, la photographie, le cinéma, etc. Moi, pour moi, mes livres en sont gorgés de références implicites, mais même si le lecteur ne sait pas que telle colline pleine de coquelicots, je ne sais pas quoi, est un un Monet, je pense qu'il le sait, que mes romans sont ont des présences, des fantomatiques, des présences de l'art, de la représentation, de, peut-être des œuvres plus identifiables comme la Madone del Parto, qui est une des constantes, enfin qui revient sans arrêt, de Piero della Francesca, comme une espèce de figure tutélaire de la une des œuvres sublimes de l'histoire de la peinture. Mais ce que je veux dire, c'est que le lecteur, on va pas lui mettre une note en bas de page, lecteur, ça c'est une scène de cinéma, ou c'est un dialogue même, quelquefois une réplique de cinéma, mais que je mets dans mes romans, ou même les noms de mes personnages, que j'appelle dans Les Malfamés, le brocanteur, il s'appelle Renoir, vous voyez, ou Melville, je nomme des personnages, mais je pense que le lecteur le sait, qu'il y a des présences.
Mais est-ce que quand vous écrivez dans votre roman Le Grand Nord-Ouest, quand vous décrivez justement ces paysages
Alaska, du Yukon, voilà. Oui, du Grand Nord canadien,
est-ce que au moment de vous relire, vous fermez les yeux et vous dites ça y est, oui, c'est ça que je voulais
j'y
dire.
J'y suis. Je m'accompagne évidemment. Je n'y étais pas encore allée. J'y suis allée ensuite au Yukon et en Alaska.
Vous avez écrit.
J'ai écrit d'abord. D'accord. C'est très souvent ce qui m'arrive d'écrire d'abord des lieux que j'ignore. D'ailleurs, il y a un épisode qui se passe en Franche-Comté où je n'étais pas allée davantage en Franche-Comté, mais je vous assure que j'ai bétonné là-dessus, j'ai lu tellement de choses sur la géologie, la flore, la faune, enfin, etc., de la Franche-Comté, que j'ai fait la même chose pour le Canada, c'est-à-dire il y a Google Earth, il y a des documents photographiques, etc., surtout de la ruée vers l'or, il y a toute une imprégnation de l'image, de l'imagerie, de la photo, etc., pour moi, qui fait que je peux décrire une banlieue de Budapest en 1930, avec les architectes constructivistes du Bauhaus, etc., ou de Berlin, où je ne suis jamais allé, où je n'ai pas vécu, en 1933, je n'étais pas né, etc., mais dont je me suis imprégné par des photographies, par des documents, enfin, c'est, je pense qu'on peut s'asseoir, et on est tous comme ça, on est hanté, on est habité par des images qu'on a vues, qu'on a entrevues, qu'on sait même pas où, etc., et quand on lit, on les projette dans le texte. Le lecteur fait la moitié du chemin, lui aussi. Il constitue l'univers spatial et temporel du livre à travers toutes sortes de réminiscences qu'il a même pas besoin d'identifier, mais qui sont là. Et donc c'est un accompagnement, une espèce de coopération entre l'écrivain et le lecteur qui fait que les lieux sont là, en effet. Et les forêts du Yukon, oui, je les ai. Le grand fleuve Yukon, en fait, etc. Puis toute la vallée du Klondike, de la ruée vers l'or, il y a certes Chaplin qui pouvait le suggérer, mais ce sont des reconstitutions de studios postérieurs de 1920. N'est-ce pas, que Chaplin fait dans... Mais n'empêche qu'il les a en tête et qu'il va les projeter dans le livre.
Alors Anne-Marie Gara, vous êtes donc invitée d'honneur de ce festival Lettres d'automne.
Et quel honneur.
C'est du boulot, hein, quand même. Oui. Hein,
c'est du boulot, mais c'est un tel plaisir, c'est une telle jouissance, c'est jubilatoire.
On vous a fait un planning, vous savez
ce
que vous
allez faire. Ah oui, il est très serré.
Ouais. Vous allez être sur scène, vous allez rencontrer vos lecteurs, vous allez vous rencontrer entre auteurs, invité énormément de personnes, en tout cas vous avez demandé à Confluence, à l'équipe de Confluence.
Ça a été construit en collaboration, ce programme-là. C'est une magnifique équipe, vous savez, qui a déjà de l'entraînement, si vous voulez, mais en même temps, j'ai l'impression qu'ils renouvellent. Moi, j'ai l'impression que c'est neuf. Ils renouvellent avec moi ce qu'ils ont fait déjà d'autres années, mais inventent avec la spécificité de l'écrivain invité toutes les modalités de rencontres qui vont avoir lieu. Ça, c'est...
Vous étiez déjà venu à Confluence ou pas?
Non,
à Lettres d'automne?
Non, jamais. D'accord. Non. J'en avais entendu parler par des auteurs invités, mais non.
Bon.
C'est une première.
Et la rencontre avec, je sais pas, que ce soit les lecteurs ou les futurs lecteurs, par exemple dans les écoles, dans les lycées, etc. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous êtes à l'aise?
Oui, parce que je le fais par ailleurs, au cours de manière occasionnelle, quand ça se présente, etc., quand je suis invitée. Mais moi, je pense qu'il y a, alors là, c'est mon militantisme aussi, mon autre casquette, si vous voulez, de la transmission de la lecture. Non pas qu'elle est si menacée qu'on le dit aujourd'hui, parce qu'il y a toujours des catastrophistes là qui nous annoncent la fin des temps. Les fossoyeurs de la littérature, etc. Moi, je n'y crois pas. Mais je pense aussi qu'il y a une prise de conscience pour l'accompagnement et le déclenchement de ce que c'est que devenir un lecteur. Que l'éducation nationale est en charge de faire, mais qu'elle n'est pas seule à avoir à faire. Et le lire-écrire n'est pas simplement un apprentissage de la langue, etc., de déchiffrer, de bien lire. Il y a aussi cette dimension du lecteur tout seul, du lecteur solitaire, qui va aller à ses risques et périls à la rencontre de livres qui ne sont pas, entre guillemets, n'est-ce pas, écrits pour lui, mais qui sont ces rencontres indicibles, ineffables, de ces chocs quelquefois bouleversants, de tomber dans des textes qui tout d'un coup vont faire de vous que vous devenez un lecteur. Qu'il vous est arrivé cette aventure inouïe d'être tombé dans le langage, d'avoir oublié le temps qu'il fait, les heures qui passent, les gens qui sont autour de vous, l'heure du déjeuner ou d'éteindre la lumière parce qu'on travaille demain matin, et d'être tombé en lecture. De tomber en lecture, je crois aussi qu'on peut créer les circonstances pour que cela arrive.
Bon, on vous retrouve sur la scène du théâtre Olympe de Gouges tout à l'heure.
Oui.
Pour qu'on tombe tous en lecture. Vous allez lire des extraits de...
Ce sont des comédiens qui vont lire.
Ah, des comédiens. Vous n'y êtes pas sur scène.
Si, non, je serai là, mais sont eux qui vont mettre en scène, en voix, en espace, des extraits de...
Est-ce que pendant la durée du festival, vous allez lire vous-même? Est-ce que...
Oui, il y aura des occasions.
Est-ce
je
que vous êtes
moi-même
une bonne lectrice de vos œuvres?
Ça, c'est une question, souvent le comédien, en effet, c'est leur métier, et ce sont des artistes, n'est-ce pas, qui peuvent être capables d'interpréter comme un musicien interprète une partition. C'est-à-dire s'approprier le texte et le lire selon leur respiration, etc. Mmh. Je pense aussi qu'en tant qu'écrivain moi-même, quand je lis à voix haute mes livres, je suis capable d'en donner une interprétation avec toutes les libertés que je prends, quelquefois même de sauter une ligne, ou de ne pas respecter la ponctuation, enfin, etc., que j'en donne aussi, et j'aime beaucoup le faire, même si c'est fautif, si je suis pas une professionnel de l'oralisation, n'est-ce pas? J'aime beaucoup lire moi-même mes livres à voix haute.
Bon, quelque chose à ne pas rater, un petit coup de cœur à vous, Anne-Marie Garat, sur le Festival Lettres d'automne, une expo, une rencontre, un spectacle.
Ben écoutez, je suis très touchée, même bouleversée, parce que je l'ai découverte hier soir. C'est la création par Georges Rousse, qui est un immense artiste, peut-être pas connu de tout le monde, mais qui a une réputation internationale, un des plus grands artistes français aujourd'hui de la photographie et de la peinture, qui est venu faire une installation au théâtre Olympe de Gouges, et puis d'un ami, Arnold Pasquier, qui est aussi un artiste et qui a créé l'installation du cabinet de lecture et une mise en voix de lecture justement d'une de mes textes, et donc d'être accompagné ainsi par des artistes amis qui ont accepté de venir à Montauban créer de tels événements, ça j'en suis très 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 touchée et très heureuse de partager ça avec le public.
Voilà. Merci beaucoup Anne-Marie Garat, vous êtes l'invitée d'honneur du Festival Lettres d'automne à Montauban et autour, histoire, image, nuage. J'aurais pu vous demander de commenter ces trois mots, mais on va en laisser
non,
un peu.
Non, il faut qu'il reste mystérieux.
Voilà, il faut en laisser pour les auditeurs.
C'est une petite clé magique, on ne sait pas ce qu'elle va ouvrir.
Merci beaucoup.
Bonne soirée du coup, voici les infos régionales avec Charles. À demain, très belle soirée, salut.